Excellent réveil à vous à l'écoute de Sud Radio. Il est 6h.
Parlons vrai. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bienvenue sur Sud Radio et bon réveil à vous tous. Bon samedi matin, nous sommes le 14 juin. Bonne fête à tous les Élysées qui nous écoutent. Un nom ancestral, bien que de plus en plus rare. On les embrasse. On est ensemble jusqu'à 10h pour faire le tour de l'actualité. On va parler évidemment beaucoup de la guerre entre l'Iran et Israël qui a éclaté hier. On va aussi revenir sur les résultats très importants du rugby. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. Mais avant ça, place au temps fort de la semaine. Les temps forts de la semaine sur Sud Radio, marqués par ce drame qui a frappé un collège dans la région Grand Est. On reviendra sur la violence à l'école dans un instant avec Jean-Jacques Bourdin et l'un de ses invités. Est-ce la faute des parents? C'est ce que pense le député que Jean-Jacques Bourdin a reçu cette semaine et que vous allez entendre. On va aussi parler des réseaux sociaux, les bannir pour les mineurs, fermer l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs. Comment on fait? Avec la carte d'identité, avec une carte de crédit, avec la vidéo reconnaissance? C'est ce qu'on va voir avec un autre invité de Jean-Jacques Bourdin dans un instant.
Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
Sud Radio Aix-en-Provence.
95.1.
Sud Radio. Sud Radio, la radio du rugby, vous donne rendez-vous pour la 25e édition du South Beach Rugby 5 Marseille, l'événement incontournable de l'été. Rendez-vous du 13 au 15 juin sur la plage du Prado David à Marseille, assister au tournoi de rugby avec des équipes venues de toute l'Europe et participer à nos animations pour tous les âges. Ne manquez pas cet événement exceptionnel gratuit et venez vivre l'adrénaline du South Beach Rugby 5, plage du Prado David à Marseille du 13 au 15 juin avec Sud Radio, la radio du rugby. Toutes les infos sur sudradio.fr. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bienvenue à tous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. Bon réveil à vous, nous sommes le samedi 14 juin. Tout de suite, on parle de notre jeunesse et des réseaux sociaux. Comment empêcher les trop jeunes d'y aller? On en parle avec Jean-Jacques Bourdin et son invité.
Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin.
Nous sommes avec Gilles Babinet, qui est entrepreneur, co-président du Conseil National du Numérique. Il est bien placé pour savoir s'il est possible ou pas, je dis bien s'il est possible ou pas, d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Gilles Babinet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Gilles Babinet. Hier, au salon Vivatech, le président de la République a répété qu'il était possible d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il faut que les réseaux sociaux vérifient l'âge, dit-il. Ils ont les techniques pour cela. Est-ce vrai, Gilles Babinet?
C'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vérifier à peu près. La mesure qui a été énoncée par le président, c'est d'utiliser des technologies biométriques. Oui. C'est-à-dire, par exemple, on vous prend en photo et puis on regarde si les traits de votre visage correspondent à quelqu'un qui a plus ou moins 15 ans. La limite qu'on comprend immédiatement, c'est que vous avez des gens qui sont plus ou moins physiquement développés à cet âge-là.
Oui.
Et donc, c'est une limite qui va être, par définition, assez approximative. C'est-à-dire, certains auront 13 ans et on dira ok, ils ont l'air d'être matures, et on le voit dans les enfants en fait de tous les jours, hein, qui tout le monde n'a pas dans une classe d'âge le même développement physique.
Oui.
Et puis d'autres auront 17 ou 18 ans et puis seront encore jugés comme par l'algorithme comme ayant moins. Oui. Donc c'est très imparfait comme approche. Et ce qui poussera évidemment à recourir à l'utilisation de la carte d'identité. On a un précédent, c'est l'Australie, qui a limité à 16 ans. Et
ils y arrivent
après
ou pas?
Un an,
ils y arrivent ou pas?
Non, c'est très. On considère qu'ils n'y arrivent pas, en fait, qu'ils y arrivent, oui, très mal, notamment parce que il y a une utilisation massive de ce qu'on appelle des VPN, c'est-à-dire des technologies de contournement qui permettent de faire croire que vous êtes à l'étranger et oui, donc de ne pas être soumis à cette limite d'âge.
Ah oui. Alors hier, Emmanuel Macron disait Ils ont les réseaux sociaux, les techniques pour vérifier l'âge, par les identifiants, par la reconnaissance faciale dont vous venez de parler, et l'identification. On l'a utilisé avec le fameux DSA, expliquez-nous.
Non mais effectivement, on peut très bien mettre la charge de la preuve sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est-à-dire
c'est ce qu'on a fait. Le texte du DSA a dit, ben, vous devez maintenant vous occuper de modérer les contenus, de vous assurer que lorsqu'on s'en prend à quelqu'un, vous réagissez rapidement. Et donc ça a montré que on pouvait leur mettre un certain nombre de responsabilités qu'ils n'avaient pas auparavant, ou peu. En tout cas, les prendre en charge. Et donc, fort de cette expérience, il dit, et en fait, ils peuvent aussi s'occuper de prendre le contrôle de l'âge. Et finalement, c'est pas tellement de la responsabilité de l'État, c'est plus de leur responsabilité de dire, écoutez, vous avez tout moyen pour faire en sorte que vous contrôlez l'âge, et puis, voilà, vous devez le faire, et si vous ne le faites pas, vous serez soumis à des amendes.
C'est-à-dire TikTok, c'est-à-dire, je sais pas moi, Facebook, Snapchat,
etc.
Tous les réseaux sociaux devraient être obligés de vérifier l'âge des utilisateurs.
Exactement.
Oui, c'est-à-dire qu'on reporte la responsabilité sur les réseaux sociaux.
Ouais, on la reporte sur les réseaux sociaux, alors... Moi, si vous voulez, je pense que on peut y arriver avec quelques accommodements, notamment sur les données privées, c'est-à-dire que vous allez être obligé de révéler les détails de votre carte d'identité. Le vrai problème en réalité que je vois là,
oui,
c'est que mais finalement on détourne le problème premier des réseaux sociaux, qui est que les algorithmes sont complètement opaques et nous influencent massivement. Que les discours violents sont 6 fois plus valorisés que les discours un peu articulés, un peu développés sur ce genre de choses, que c'est un modèle qui est basé sur la publicité, et donc les intérêts des plateformes ne sont absolument pas les vôtres, etc. Et finalement, ça a un peu tendance à dire, avant 15 ans c'est mal, puis après 15 ans c'est bien.
Oui,
alors que ça n'empêchera pas qu'on continue à se taper dessus, à avoir un débat démocratique qui s'effondre, etc., à ne pas savoir ce qu'il y a dans ces algorithmes, et finalement aussi certains qui sont, comme celui qui appartient à Elon Musk, ne poussent pas certaines formes de contenu qui sont plus favorables avec ses idées, etc. Donc si vous voulez, c'est un peu moi le... Je pense que le problème est beaucoup, beaucoup plus brutal que la limite d'âge de 15 ans. Et par ailleurs, vous avez beaucoup d'ados qui disent, mais moi, le problème, c'est pas moi le temps que je passe sur les algorithmes, c'est le temps que passent mes parents sur les réseaux sociaux.
Oui.
C'est-à-dire le fait qu'on n'arrive plus à avoir... Ce truc ressort beaucoup dans les études. Hein.
Bah oui, oui.
Mais vous avez tellement raison, Gilles Babinet, vous avez tellement
incroyable.
Raison.
Les réseaux sociaux et WhatsApp et tout ça. Hein.
Ouais. Les parents.
Ouais. Mm-hmm. Et donc, on a fait des études, alors malheureusement pas en France, mais aux États-Unis. On s'est rendu compte que les enfants passaient moins de temps sur les réseaux sociaux que les parents. C'est assez surprenant, mais un adulte aux États-Unis passe 7h15 sur les écrans.
Alors,
c'est tous écrans confondus. 7h15
par jour. C'est de la
folie. Il y a du multi-écran, c'est-à-dire que
on
cumule le multi-écran. Mais néanmoins, c'est hallucinant.
Ouais, c'est hallucinant.
Voilà, donc si vous n'avez pas des troubles dans le noyau familial lorsque vous êtes face à ce genre de choses, et qu'on va finalement s'en prendre au moins de 15 ans parce que c'est plus facile d'une certaine manière. Je dis pas qu'il y a pas un vrai problème par ailleurs.
Oui. Merci
mais vous voyez
beaucoup,
que c'est des sujets qui sont compliqués.
Ça. Merci beaucoup Gilles Babinet.
Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio, un entretien à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Avec ou sans les réseaux sociaux, la violence qui arrive dans nos écoles, à qui la faute? Est-ce la faute des parents? On en parle tout de suite, toujours avec Jean-Jacques Bourdin.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin.
Carl Olive, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous, vous êtes député Ensemble pour la République des Yvelines, ancien maire de Poissy. Carl Olive, dans votre commune de Poissy, vous avez malheureusement appris parfois que des élèves entraient dans le collège ou au lycée avec des armes blanches, ça arrive malheureusement.
Oui, ça arrive et on peut se poser les questions. Et comme la pauvre Mélanie a subi un tel effroi, oui, ça peut arriver. La sécurité zéro n'existe pas. Pour autant, oui. On a un vrai sujet à se poser sur d'abord le mal et aussi les racines du mal, Jean-Jacques Bourdin. Le mal, c'est quoi? C'est comment aujourd'hui on peut autoriser et permettre un gamin de 13 ans d'arriver avec une arme blanche. Mmh. Et moi, je l'ai dit il y a déjà un mois, alors qu'on m'a rionné, oui, il faut interdire la vente des armes blanches aux mineurs. C'est une petite pierre à côté d'autres pierres.
C'est ce qui a été décidé hier par François Bayrou.
Oui, oui, il n'est jamais trop tard. Oui. La deuxième chose, c'est équiper nos collèges et nos écoles. Il faut passer par là, par des équipements de vidéoprotection. On a eu des expérimentations, notamment dans les Yvelines, et ça fonctionne sur la détection de foule lorsqu'il y a des mouvements qui est fait.
La vidéoprotection plus efficace, parce que les portiques, c'est très contesté. Hein. Il y a des armes blanches, par exemple, en céramique, qui ne sont pas détectées.
Effectivement. Alors la vidéoprotection, oui, quand elle est bien opérée, avec ce qu'on appelle des CSU, Jean-Jacques Bourdin, des centres de supervision urbain qui peuvent être mutualisés à l'échelle du département. Je pense que dans les Yvelines, le conseil départemental a mis ça en place. Valérie Pécresse, donc avec Pierre Bédier dans le département des Yvelines, Valérie Pécresse expérimente aussi cela dans les lycées d'Île-de-France. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a des solutions. C'est pour ça que moi, le depuis hier, on entend bien le Yaka Faucon. Oui. Non, il n'y a pas de Yaka Faucon.
Ça me fait plaisir de vous entendre dire ça, parce que je vois tous les partis politiques récupérer, évidemment, comme toujours, les drames, et encore une fois, avancer des solutions. Alors, il y a la répression qui est indispensable. La prévention, la répression. Mais la prévention, ce n'est pas que ça. La prévention, c'est aussi la santé mentale. Se préoccuper de la santé mentale de ses collégiens et de ses lycéens.
Jean-Jacques Bourdin, un Français sur cinq, touché par des aspects de psychothérapie parfois. Je regardais les chiffres, ils sont effarants. Entre 18 et 24 ans, 20% de dépression en 2021, 50% déjà touchés, des étudiants avec des symptômes dépressifs. Sur les 11-15 ans, c'est 45% d'anxiété. Et sur les collégiens, comme le collégien d'hier, 24% d'idées suicidaires. Là, on est sur les racines du mal. Et là, il faut investir massivement. Alors, encore une fois, c'est pas le Yaka Faucon, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, et c'est vrai que l'épisode post-Covid est dramatique sur ce sujet-là, oui, on est dans la prévention. Aujourd'hui, le coût de la santé mentale en France, c'est 163 milliards. Mmh. Il est temps d'investir et ne pas considérer que c'est une dépense, c'est un investissement. Mmh. Et derrière, écoutons les acteurs directs et indirects de l'éducation nationale, pour pas qu'on soit dans le Yaka Faucon. On peut aussi parler de harcèlement, Jean-Jacques Bourdin, parce que le harcèlement est aussi une des pistes qui nous entraîne parfois à faire des excès, comme malheureusement peut-être ça s'est passé hier.
Oui, peut-être, vous dites peut-être, parce que le garçon qui a poignardé Mélanie, garçon de 14 ans, était référent harcèlement dans son collège, mais il avait fait l'objet de deux expulsions temporaires en début d'année parce qu'il avait commis des actes violents. Le harcèlement, il se murmure qu'il était lui-même victime de harcèlement.
Oui, puis c'est tellement indicible. Le harcèlement. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui peuvent rentrer avec, comme on dit, la banane à la maison et qui sont harcelés dans leur collège, dans leur école, dans leur lycée. Je vais vous donner un tout petit exemple qui me pétrit encore une fois d'émotion. La maman du petit Nicolas.
Oui.
Qu'on a retrouvé, j'étais le premier à me retrouver au domicile de cette maman quand
je me souviens,
jeune Nicolas s'est pendu. Elle me disait, mais moi, mon fils, quand il rentre à la maison, il était très heureux. Il me disait, mais maman, il n'y a aucun problème. Alors qu'il vivait l'enfer au quotidien. Et que cet enfer-là, parfois, on passe dans les trous de la raquette.
Oui, il n'osait pas le dire. Il n'osait pas l'avouer à ses parents. Et puis, il y a, puisqu'on parle des parents, il y a la responsabilité des parents. Les parents se préoccupent de la santé physique de leurs enfants, mais pas toujours de la santé mentale. Il faut dire que c'est extrêmement difficile de trouver un dialogue avec son ado.
Alors moi, je veux être beaucoup plus direct que vous l'êtes, Jean-Jacques Bourdin.
Oui.
Je pense qu'il y a une responsabilité parentale. De la même manière qu'un enfant qui a 12 ans, 14 ans ne doit pas arriver à l'école avec une arme blanche, un enfant entre 12 et 17 ans n'a rien à faire à minuit, 2 heures du matin, sur la voie publique, comme ça peut arriver. Et à un moment donné, il faut expliquer les règles à ses parents, et quand les règles sont expliquées, elles sont appliquées et pas interprétées. Je vous dis ça parce qu'il nous est arrivé, par exemple, à Poissy, un gamin de 12 ans à 2 heures du matin qui vient péter un abribus, et puis derrière, on n'a pas de sujet avec les parents. Ça suffit. Donc oui. On a mis en place des
mais là, là on sort, on c'est pas le même sujet, si je puis dire. Enfin, c'est pas le même sujet.
C'est juste un exemple. C'est oui. juste un exemple où à un moment donné, on doit avoir. Enfin, je sais pas, Jean-Jacques Bourdin, quand vous étiez gamin,
bien
vous vous pointiez avec une arme blanche.
Non, mais évidemment que non. Mais 14 ans, mais évidemment que non. Mais là, 14 ans, un village, des villages, une petite ville de 3500 habitants, un autre monde. Pas du tout le monde de la banlieue, pas du tout le conflit entre communautés. On est loin de tout cela. En revanche, on est peut-être tout près des réseaux sociaux. Le président de la République demande l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. En France, vous appuyez.
Évidemment. Quand je disais tout à l'heure, la vidéoprotection, c'est une pierre.
Oui.
Le fait de pouvoir faire des fouilles, c'est une pierre. L'interdiction des réseaux sociaux, c'est une pierre. Encore une fois, il n'y a pas une solution.
Exactement.
Il y a des solutions. Et il faut qu'on soit sans jugement par rapport à ça. Oui, effectivement, il faut qu'on puisse interdire l'accès aux réseaux sociaux pour nos gamins. Et commençons déjà par interdire, et c'est parfois très compliqué, vous avez vu l'accès sur les sites pornographiques.
Oui.
Il faut absolument qu'on double verrouille tous ces systèmes-là qui viennent polluer, pourrir et abîmer l'éducation de nos gamins.
Quelques mots, Carl Olive, sur le futur stade du Paris Saint-Germain, à Poissy ou pas alors ?
Écoutez, d'abord, à Poissy, on est fiers que le Paris Saint-Germain ait jeté son dévolu sur le site de Poissy. Nous, on a deux finales à jouer. La première finale, c'est celle de l'emploi, parce que c'est sur le site de Stellantis. Et je suis bien plus préoccupé aujourd'hui sur l'avenir du site industriel que sur l'avenue derrière.
Stellantis veut fermer ?
Non, Stellantis ne veut pas fermer, justement. Et là, c'est très bien, parce qu'on travaille avec les syndicats et avec les élus locaux sur le maintien d'un site industriel, peut-être dans une mutation. Mais en tout cas, c'est le cas. Faut savoir, Jean-Jacques Bourdin, rapidement, qu'aujourd'hui, il y a 170 hectares à Poissy. Sur le site de Stellantis, il y en a 100 qui sont utilisés. Donc d'ores et déjà aujourd'hui, on doit s'inquiéter de comment on va utiliser les 70 hectares restants. Et notre premier combat, c'est l'emploi. Et puis la deuxième finale, c'est celle effectivement que nous propose le Paris Saint-Germain dans des études de terrain avec Massy. Aujourd'hui, comme on l'a fait pour le centre d'entraînement, je ne sais pas si vous le connaissez, mais à Poissy, qu'on accueille depuis maintenant 2 ans, on a effectivement une proximité, on a un savoir-faire, tout simplement parce qu'on est dans l'alignement de planète avec la ville, le département, la région, la communauté urbaine et les habitants.
Bien, merci Carl Olive. Décision 2026, je crois.
Décision 2026, oui.
2026.
Le député Ensemble pour la République, Carl Olive, invité de Jean-Jacques Bourdin. Un entretien à retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. Place à André Berkoff. Berkoff dans tous ses états avec ses invités. Peut-on être issu de la diversité et patriote ? Évidemment, oui. Oui, vous clamons, notamment les invités d'André Berkoff dans un instant. Et puis, on va parler de la chasse. Les chasseurs qui s'estiment malmenés par les écologistes, malmenés par l'État et par l'Europe. Entretien avec Jean-François Aquili dans La Vérité en face, en compagnie du patron de la Fédération Nationale des Chasseurs. C'est dans un instant.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Pour celles qui préparent déjà leur look d'été, ceux qui veulent habiller toute leur tribu sans avoir à se priver, pour les petits plaisirs comme les grandes envies, Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Craquez pour les ventes non privées chez Kiabi. Pour 2 articles achetés, profitez de moins 20% de réduction. 3 articles moins 30, 4 articles moins 40 et 5 articles moins 50%. Kiabi, la mode à petit prix. Jusqu'au 24 juin sur articles signalés. Conditions kiabi.com.
Sud Radio Valence.
95.1.
Sud Radio.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix. Car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio.
Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bienvenue à tous sur Sud Radio et bon réveil à vous surtout. On est ensemble jusqu'à 10h. Les chasseurs souffrent-ils d'un délit de sale gueule ? Tout de suite, on en parle avec Jean-François Aquili et son invité.
Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili.
Bonjour à vous, Willy Schren.
Oui, bonjour Jean-François.
Alors, je vous présente, nous connaissons un président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Willy Schren, vous avez vu l'ambiance dans le pays en ce moment ?
Oui, j'ai vu. Oui.
Vous en pensez quoi, vous ?
Je pense que la colère, on est passé par la colère et l'inquiétude, on est un peu dans la résignation maintenant, comme beaucoup de Français. On voit bien que la jeunesse a plein de problèmes, on voit bien que la vieillesse a plein de problèmes, on voit que l'économie a plein de problèmes, le social. On est dans une société aujourd'hui qui est plutôt violente, impatiente, désabusée. Enfin, il y a tellement de choses qui s'additionnent que je fais partie de ces gens où on finit par se demander comment ça va finir, quoi. Parce que les solutions sont difficiles à trouver, mais l'inquiétude est là.
Vous savez que c'est le procès hein, qui est fait aux chasseurs depuis quelques décennies maintenant. Vous êtes sur un modèle ancien, vous nuisez aux espèces, vous êtes des individus dangereux qui circulaient avec des fusils en pleine nature, là où les gens se baladent. Mais la société aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas ultra-violente ? Comment est-ce que vous vous situez là-dedans, vous,
Willy Schrein ? En fin de compte, on fait plutôt partie de, je dirais, des moins violents. Parce que dans le fond, tous les chasseurs sont armés. Est-ce que vous avez vu un jour un problème, un chasseur qui aurait, on va dire, pété un câble, tiré sur tout ce qui bouge ? Ça n'arrive pas. On est quand même des gens formés à ça. On est plutôt des gens heureux, dans un monde qui est triste. Et je crois que ça agace nos opposants, d'ailleurs. On est heureux. Quand on est à la chasse, on est heureux. C'est encore un des derniers liens qu'on a dans les campagnes. C'est souvent la dernière association du village. C'est transgénérationnel. Voilà, c'est transsocial, transfinancier. Vous avez des gens de toutes sortes d'horizons. Il n'y a plus beaucoup d'endroits, monsieur Akili. On peut mettre des gens autour d'une passion. Parce que même le football, tout ça, vous le vivez seul dans un stade. Là, c'est collectif. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on est heureux de se rencontrer, où il y a encore des valeurs. Il y a encore de la transmission, il y a de la tradition. On a besoin de ces socles-là en ce moment.
Vous y croyez, vous, à ce combat que vous menez ? Parce que vous publiez un manifeste aujourd'hui. C'est un moment important pour vous, ce manifeste. On va dire ce qu'il y a dedans, en substance. Hein. Grosso modo, moi, j'ai relevé, vous m'arrêtez si je suis incomplet ou si je tape à côté, mais vous avez une 11 propositions ?
Oui, 11 propositions. C'est un manifeste, ce qui dit, on est dans quelque chose de dur, de brutal, c'est plus un cri de colère.
Vous voulez qu'on reconnaisse l'intérêt général de la chasse. Il y a cette demande d'inscription au patrimoine de l'UNESCO, immatériel. Ça n'a pas de chance d'aboutir, ça.
Ah, non, au contraire, ça aurait une logique d'aboutir.
Oui, ça aurait d'ailleurs une logique, mais bon.
En d'autres temps, il n'y a pas si longtemps que ça, certaines chasses sont passées au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je pense par exemple à la chasse au vol, les rapaces, on chasse avec un rapace. Bon, tout ça s'est arrêté quand l'écologie politique et punitive est arrivée sur la scène publique, où on expliquait qu'on était tous des voyous, des méchants, des dangereux, et qu'il fallait se débarrasser de gens comme nous. Mais c'est un tort, je le redis, pour ce que je vous expliquais après. Et puis d'un côté pratique, et dans la biodiversité, combien de réserves aujourd'hui, combien d'endroits où on exclut la chasse, que ce soit en France ou ailleurs, hein, les Suisses ont été les premiers que le canton de Genève à le faire, et au final on fait quoi ? Ben, il se passe 3-4 ans, on demande de revenir. Donc c'est qu'il y a
pourquoi
quand même...
Parce que
on ne peut pas, la nature qui nous entoure, tout au moins en Europe, c'est quelque chose qui a été façonné par la main de l'homme depuis des milliers d'années. Donc imaginez qu'on va enlever l'espèce humaine des territoires, parce que c'est ça la grande idéologie, je dirais, de l'écologie aujourd'hui dogmatique, de dire on enlève l'espèce humaine et tout ira bien. Ça n'est pas vrai, vous enlevez l'espèce humaine. L'homme a une fonction aujourd'hui de régulation et de maintien des écosystèmes. Alors il peut les dérégler dans d'autres domaines, mais dans celui-là, à un moment, quand vous avez trop de cormorants, vous n'avez plus de poissons, à un moment, voilà, quand vous avez trop de loups, vous n'avez plus de chevreuils. Voilà, il faut équilibrer tout ça. Et c'est à l'homme de le faire.
Vous êtes un peu agacé. Hein. Vous en voulez à Bruxelles, l'Europe.
Mais oui, mais j'en veux à Bruxelles.
C'est pas un peu facile, ça, de taper
la
bureaucratie européenne.
Mais d'abord, je le dis souvent, je vais le redire maintenant. Le pire, ce qu'on a aujourd'hui, vous avez tellement de gens là-bas qui sont payés à avoir des idées. Et une idée, c'est une norme. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un mec qui s'emmerde devant son ordinateur et que pour justifier son salaire, il doit trouver une idée. Cette idée, c'est une norme. Alors, il y en a pour la chasse, il y en a pour l'économie, il y en a pour le social, il y en a dans tout. Je pense qu'à un moment, il faut dénormer tout ça et faire respirer. On a dit, on va calmer. Ça fait 5-6 ans, on arrête les normes. Il y en a quand même eu 35 000 en 5 ans, des nouvelles.
À la chasse aux normes, en quelque sorte.
On va le dire comme ça. Si vous voulez, à la chasse, non, mais je veux surtout qu'on aille à la chasse à la liberté. Vous n'avez pas l'impression, monsieur Akili, que dans tous les domaines, c'est le plus gros problème aujourd'hui, c'est la liberté?
Mais
qu'est-ce que j'ai comme liberté quand je vais à la chasse? Qu'est-ce que j'ai comme liberté quand je vais dans la nature? Qu'est-ce que je fais comme liberté quand je choisis mes habits, quand je choisis ma voiture? On est à peu près emmerdé surtout, y compris dans la chasse, mais dans tout le reste. La liberté, les gens étouffent et manquent de liberté.
Qu'est-ce que ça signifie quand il y a réduction de période de chasse, Willy Schrein? Quel est l'impact au fond? On a envie de vous dire, la première idée qui nous vient, c'est ça va peut-être permettre de préserver certaines espèces. C'est l'idée reçue, hein.
Alors, à condition que la chasse soit responsable des problèmes des espèces, d'abord. Et puis nous, on n'est pas contre. Attendez, il est logique qu'on travaille sur la bonne dynamique des espèces. Nous sommes chasseurs.
C'est le cas déjà.
Mais bien sûr, il y a plein de choses qu'on fait nous-mêmes. On n'a pas attendu d'avoir des techno-écolos de Bruxelles ou ici des politiques locaux pour nous expliquer comment on doit faire. On sait comment on doit faire. D'ailleurs, c'est plutôt depuis qu'ils s'en occupent, depuis 25 ans, qu'on a le plus de problèmes. Je tiens juste à le signaler, mais c'est quand même une évidence. Donc évidemment, on est là pour la biodiversité. Moi, j'ai aucune envie de me retrouver demain avec plus d'espèces à chasser, puisque nous sommes chasseurs. Donc par nature, on est là à la fois pour préserver, mais aussi pour protéger. On y travaille. On passe quand même aujourd'hui. Hein. Il y a 800 000 personnes qui sont bénévoles à la chasse et qui travaillent pour la nature. On amène 4 milliards d'euros écosystémiques à la nature. On passe 22 millions d'heures bénévoles. Quel est le mec dans un bureau, quelque part à Paris, qui a une grande idée, qui le fait? Moi, je les vois pas, ces gars-là, dans la nature. Donc, on peut nous reprocher tout ce qu'on veut. Ce qu'on nous reproche, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est de tuer un animal. L'animalisme est en train, l'antispécisme. Comment on peut m'expliquer qu'un poisson rouge et qu'un être humain, ça a la même valeur et c'est la même chose? Je suis désolé, ça n'est pas et ça ne sera jamais. On respecte le vivant.
C'est un débat qui est vraiment sur la place publique.
Regardez comment aujourd'hui on met en avant les animaux. On respecte les animaux. J'adore les animaux, comme tout le monde. J'ai des chiens, j'ai des chats, j'ai plein d'animaux. Mais ça reste un animal. À un moment, c'est pas un enfant. Quand on pose des questions à certaines personnes très connues, on leur dit il y a un enfant et il y a un chien qui tombe à l'eau, vous plongez pour lequel? Quand on vous répond qu'on plonge pour le chien parce qu'il y a assez d'enfants, il y en aura trop de façon sur la planète, on est quand même dans un profond délire. C'est contre tout ça qu'on en a marre. Alors oui, il y a un manifeste, on a marre. Et Bruxelles, vous parlez de Bruxelles, mais regardez, les directives, on fait des directives à Bruxelles, mais c'est valable pour tout, c'est inadmissible.
Donnez-nous un exemple de directive qui vous agace.
Ils sont en train de travailler en ce moment sur une directive du bien-être animal. Bon, alors, bien-être animal, principalement les animaux domestiques. Vous avez vu les conditions qui avaient été rédigées pour avoir un chien, détenir un animal domestique, parce que ça va tellement loin de dire aujourd'hui ce qu'on veut plus, c'est que les gens aliènent un animal pour leur plaisir personnel. Donc vous avez un animal, vous n'avez pas le droit de le transporter de plus de 2 heures. Vous avez un animal, il a pas le droit de sortir
s'il
fait plus de 20
cm. C'est dans des textes,
on est en train d'y travailler, on se bat. Mais bien sûr que c'est dans des textes. Laissez une lumière la nuit pour pas qu'il ait un peu de stress dans votre maison. Mais faut arrêter, quoi. Tout ça, c'est dans des textes. Mmh. C'est dans cette dernière directive. Et toutes les autres sont pareils. Il y a des gens qui imaginent ça, quelque part, effectivement, et qui mettent ça dans des textes. Et puis, ça arrive dans le droit français, M. Achilli. On n'a même pas un microgramme de marge de manœuvre. On est obligé de rentrer tout ça dans la loi. Donc, quand on râle sur l'Europe, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui nous dirige d'un bout à l'autre. On n'a plus rien à dire.
La vérité en face, toute la semaine de 9h à 10h sur Sud Radio. Une émission à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Tout de suite, place à André Bercoff. Bercoff dans tous ses états, qui nous parle diversité et patriotisme en compagnie de ses invités.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le face-à-face.
On parle beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup de patriotisme, on parle beaucoup de diversité. Et en général, on n'associe pas justement ces termes. Alors, ce sont les discussions qu'il y a depuis des décennies. Elles ont pris effectivement un rapport de plus en plus intense, de plus en plus conflictuel, de plus en plus agressif quelquefois. Et évidemment, on ne peut que le déplorer. Et se dire, oui, alors il y a les patriotes, alors on parle des patriotes, effectivement, soit c'est le parti politique de Florian Philippot, soit c'est en général les souverainistes, les identitaires, etc. Et puis il y a la diversité, mais alors la diversité, justement, certains disent c'est pas possible, ils ne veulent pas s'assimiler, d'autres disent, mais oui, ils veulent s'assimiler, etc., etc. Enfin, il y a vraiment, vous savez très très bien, cette France archipélisée, cette France diffractée, cette France atomisée. Eh bien, il y a quand même en ce moment, des gens d'un peu partout qui en ont assez, qui en ont marre et qui ont envie de parler autrement. Et avant de recevoir nos invités, je voudrais vous faire écouter. Voilà, j'ai vu ça sur Internet. J'ai vu quelqu'un qui est, comme on dit, issu de la diversité, entre guillemets. Je ne sais pas s'il a la nationalité française ou s'il ne l'a pas. Je pense qu'il est français, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'il a à dire. Écoutez.
Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi les Français votent le Rassemblement National. Ils ont raison. Ça fait 3 jours, je garde le silence, je dis rien, juste je regarde. Des arrêts de bus cassés, des magasins dévalisés, des chauffeurs de bus à l'hôpital, un pompier, vous avez tabassé un pompier, le pompier demain c'est lui qui va venir sauver ta mère quand elle est en train de mourir. Ton père il est bloqué, il est en train de tomber d'un étage, c'est lui qui va venir lui sauver la vie, vous êtes parti frapper un pompier. Mais qui fait ça? On est le cirque La France, c'est le cirque du monde entier. Tout le monde nous voit comme des clowns. Après, c'est normal, on a un président qui se fait gifler en plein public par sa femme. Il est plein de matchs, il s'en fout de tout le monde. C'est ça, fêter la victoire du Paris Saint-Germain? C'est ça, fêter la Champions League? Vous êtes des animaux, des singes. Ils ont raison de voter le Rassemblement National. Oui, ils ont raison. Et la vie de ma mère qu'ils ont raison.
Voilà, c'est provocateur, c'est fort, c'est quelqu'un qui part à le visage découvert, puisque on voit son image sur Internet, et il dit ceci. Alors, voilà, je voudrais vous présenter les fondateurs d'un nouveau mouvement, appelons-le mouvement ou association ou parti en attendant, pas parti politique bien sûr, les patriotes de la diversité. Alors Hendaye Harry, bonjour.
Bonjour.
Hendaye Harry, vous avez déjà écrit, vous avez un parcours très très fort, on en a déjà parlé ici et ailleurs d'ailleurs. Vous avez eu une enfance pas si simple que ça. Vous avez été salafiste. Vous avez un jour changé, un jour et plusieurs jours. Vous avez eu des rencontres très fortes. En tout cas, on va parler de cela, mais on va surtout parler de cette formation parce que vous êtes venu à conscience de se dire on ne peut pas être dans un voile. Je ne dis pas sous le voile, mais dans un voile, qu'il soit intellectuel, qu'il soit mental, qu'il soit politique ou religieux, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, ça vaut pour toutes les religions et tous les intégrismes de toutes les religions. Ben, bonjour. Vous êtes,
bonjour.
On vous appelle Ben le Patriote.
Exactement.
Donc, pas besoin d'expliquer. Vous êtes créateur de contenu.
Tout à fait, ouais.
Et Guy Courtois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président d'un think tank d'urbanisme, mais dans urbanisme, il y a urbain. Et
absolument.
Il n'est pas mauvais, effectivement, qu'on se penche vers des légendes urbaines qui ne soient pas que des légendes de ghetto ou des légendes de violence. Donc, d'abord, je voudrais savoir, peut-être je pourrais m'adresser à Hendaye Harry, patriote de la diversité, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, en fait, c'est simple, ce sont deux termes qu'on a tendance à opposer.
C'est ce que j'ai dit, oui.
Les patriotes et la diversité, moi j'ai voulu les rassembler, ces deux termes, parce que ce sont des termes qui ont été dévoyés, qui ont été utilisés par des courants politiques, notamment le terme patriotisme. Souvent, quand on ose dire qu'on est patriote, on est souvent taxé d'extrême droite. Exactement, c'est ça. On est quelqu'un de on est mal vu, en fait. C'est comme si ce terme était tabou, en fait, que c'était devenu une honte de dire qu'on était patriote, qu'on est fier de porter le drapeau français. Des gens n'osent pas aujourd'hui parce que ils ont peur d'être tout de suite catalogués d'extrême droite. Et le terme diversité, en fait, c'est souvent un terme qui est utilisé par extrême gauche, qui utilise justement ces populations qui sont issues de la diversité pour justement les victimiser, leur faire croire que la France est un pays de racistes
systémiques,
exactement, et que finalement ce sont eux les sauveurs de ces communautés. Et donc moi j'ai voulu faire un pied de nez ces personnes qui manipulent justement ces mots pour réunir, pour rassembler, et donc j'ai rassemblé ces deux termes, diversité, patriotisme, les patriotes de la diversité. C'est très clair, dans le logo il y a deux mains qui se serrent, une main blanche et une main noire, et le but, donc ça veut tout dire,
c'est français, enfin sur les voilà, sous bleu blanc rouge,
exactement,
quoi.
Voilà, rassemblons, le but c'est de rassembler et de lutter contre ceux qui nous divisent et contre toutes ces courants extrémistes.
Montrez-nous je sais pas si vous avez attends, est-ce qu'on peut oui, non, ça va, bougez pas. Ben, dites-moi, alors pour vous c'est quoi, que signifie qu'est-ce qui vous a amené à fonder cela, à adhérer à cela?
Moi, c'est mes débuts dans les réseaux sociaux. J'étais pas trop réseaux sociaux et j'ai mis le nez dedans et je me suis rendu compte de la violence qu'il y avait dans les réseaux sociaux. J'avais des choses à dire, et moi avant de rentrer chez les pompiers, parce que je suis pompier militaire, c'est mon métier.
Vous êtes pompier militaire,
d'accord. Je suis pompier militaire.
Oui, oui.
Mon père m'avait toujours dit non mais t'es algérien, et je pensais vraiment que j'étais un étranger dans mon pays, en fait. Et en rentrant à l'armée, en faisant les couleurs tous les jours, en levant les drapeaux, en chantant la Marseillaise, je me suis dit quel merveilleux pays, je suis de ce pays, je fais partie de ce pays et je suis français. Ensuite, j'ai commencé à dire ce que je pensais sur les réseaux sociaux. Et lorsque j'ai dit je suis fier d'être français, avec mon physique qui est le mien, un peu bronzé, on m'a tout de suite insulté. Traître, harki, vendu. Et je me suis dit, là, il y a un vrai, vrai problème à régler en France.
Vous avez tout de suite une vague, ce qu'on appelle un shitstorm dans le langage des plateformes. Vous avez eu un shitstorm d'hostilité, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ouais. Alors, et je me suis dit, il y a un vrai problème parce qu'en fait, on peut pas être français d'origine algérienne. Je suis fier de mes origines, d'ailleurs.
Bien sûr.
Mais je suis encore plus fier d'être français. On n'a pas le droit d'être ça. Il faut choisir un camp. On a l'impression qu'il faut choisir. Soit tu es algérien, soit tu es français. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec Enda, on s'est réunis. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme nous. Il y a des gens, mais qui ont peur de s'exprimer.
Berkoff dans tous ses états de midi à 14h, du lundi au jeudi, sur Sud Radio. Elle est restée avec nous, on se retrouve dans un instant. On va parler de la chaîne qui a remplacé cette semaine C8 sur votre TNT. C'est la chaîne parlementaire, la LCPAN. On va en parler avec son président, Valérie Expert et Gilles Ganzmann. Mais avant ça, la France insoumise, où va-t-elle à l'approche des élections? C'est ce qu'on verra avec Jean-Jacques Bourdin et son invité.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Sud Radio Limoges.
95.
Sud Radio.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bon réveil à tous, on est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio. Les temps forts de votre semaine, c'était notamment ce temps fort politique avec Jean-Jacques Bourdin et son invité.
Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin.
Notre invité ce matin, Manuel Bompard, qui est député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Vous dirigez le mouvement. Manuel Bompard, bonjour.
Bonjour.
Élection municipale l'année prochaine. Est-ce que vous allez passer avec le PS ou d'autres à gauche, les écologistes, des accords de désistement?
De désistement, c'est-à-dire au deuxième tour?
Oui.
Ben, au deuxième tour, il y a un principe en France qui est que quand vous avez le choix entre... d'abord, il faut faire plus de 10% pour pouvoir se maintenir.
Oui,
mais ensuite, vous avez un principe au second tour d'une élection municipale, c'est que vous choisissez plutôt la gauche que la droite. Donc, c'est pas tout à fait...
Des alliances avec surprise. Le PS au cas par cas.
Ça, c'est un autre sujet.
Est-ce qu'il y aura des alliances?
Désistement et alliances, ce n'est pas la même chose.
On est d'accord. Désistement, on a compris. Et alliances. Est-ce qu'il y aura des alliances avec le PS au cas par cas?
Pour être très clair, de ce que je vois dans les grandes villes, on part sur plutôt un schéma dans lequel la France Insoumise, avec d'autres composantes, j'espère, va constituer des listes, qui sont des listes qui ont vocation à reprendre des municipalités à la droite quand c'est la droite qui gouverne, et parfois d'être en compétition avec les municipalités socialistes sortantes, parce que évidemment nous ne sommes pas d'accord avec le bilan de ces municipalités.
Est-ce que vous pensez que le Parti Socialiste est prêt à ces alliances? À des alliances?
J'ai observé dans leur congrès que le Parti Socialiste, quels que soient d'ailleurs les candidats à la fonction de premier secrétaire, ils disaient tous la même chose, c'est qu'ils voulaient plus travailler avec la France Insoumise. Donc pour que les choses soient claires, il y a un an, ils étaient très contents de pouvoir avoir les électrices et les électeurs de la France Insoumise. Il y a un an, ils faisaient semblant d'être d'accord avec le programme du Nouveau Front Populaire. Et aujourd'hui, quand vous les interrogez, ils disent non, ce programme, on l'a signé rapidement. Et puis de toute façon, il faut plus rien faire avec la France Insoumise. Donc moi, pardon, mais je suis pas des gens qui signent un programme et un an plus tard, qui considèrent que ce programme n'existe plus, qu'il le froisse et qu'il le jette à la poubelle. Donc, Le Parti Socialiste, il fera bien ce qu'il veut. Je vais vous dire franchement, c'est pas tout à fait mon sujet. Nous, on continue à travailler dans la continuité des engagements qu'on a défendus devant les électrices et les électeurs. On a défendu un programme, le programme du Nouveau Front Populaire. On continue à le porter et on continuera à le porter s'il y a une dissolution aux prochaines élections législatives, aux prochaines présidentielles, avec toutes celles et ceux qui veulent le porter avec nous.
Pas de candidature commune avec le reste de la gauche lors de la présidentielle de 2027.
Ça peut être une candidature commune, ce que je suis en train de dire, puisque certains peuvent peut-être...
Vous appelez à une candidature commune,
moi,
toujours.
Moi, je souhaite une candidature commune autour du programme du Nouveau Front Populaire. Et la France Insoumise considère, et c'est la déclaration et la position que nous avons prise par le vote des Insoumises et des Insoumis au mois de décembre dernier, disant nous, on est prêt à une candidature commune, et on considère en tant que formation politique qui a fait 22% des voix à la dernière élection présidentielle, en tant que formation politique qui dispose du plus grand groupe de gauche à l'Assemblée nationale, on considère que c'est notre responsabilité de proposer une candidature, et nous sommes évidemment prêt à ce que cette candidature puisse être commune à d'autres formations politiques.
Et comment Jean-Luc Mélenchon pourrait-il ne pas être candidat en 2027 ?
Ah bah c'est très simple, comment il pourrait décider qu'il ne souhaite pas être candidat ? Tout est toujours possible.
Tout est toujours possible.
Monsieur Bourdin. Mais sur ce sujet, Jean-Luc Mélenchon, il a dit lui-même après l'élection présidentielle de 2022, j'aspire à être remplacé. C'est les termes qu'il a employés.
Il l'est aujourd'hui ?
Il l'est, c'est-à-dire ?
Remplacé ?
Ah bah non, il n'est pas remplacé, Jean-Luc Mélenchon, il a une fonction...
Donc il n'est pas remplacé pour 2027 aujourd'hui, mais c'est pour ça que je vous posais la question.
J'ai bien compris votre question, monsieur,
oui,
monsieur Bonnard.
Puisqu'il aspirait à être remplacé.
On ne va pas tourner autour du pot et faire
semblant. Oui, aujourd'hui il n'est pas remplacé, c'est clair.
Mais attendez, s'il doit y avoir une élection, s'il devait y avoir, puisque vous m'avez interrogé sur le départ du président de la République, j'ai toujours dit la même chose, moi je suis cohérent. S'il devait y avoir une élection présidentielle tout de suite, évidemment, Jean-Luc Mélenchon me semble être aujourd'hui le candidat, le meilleur candidat,
disons clairement les choses.
Pour 2027,
tout est prêt d'ailleurs pour sa candidature.
Pour 2027, on décidera en temps voulu. Et Jean-Luc Mélenchon fait évidemment partie des hypothèses.
Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est candidat. Dans deux ans, nous verrons.
Non, c'est mais bien. Ne me faites pas dire... Mes propos, ils sont clairs, il n'y a pas besoin que vous les reformuliez.
Mais non, je ne les reformule pas. Je traduis votre pensée, Manuel Bompard.
Non, ne traduisez pas ma pensée. Ma pensée n'a pas besoin d'être traduite par vous.
Parce que parfois...
Et vaut mieux pour ma pensée qu'elle soit pas traduite par vous, monsieur Bourdin.
Manuel
Bompard. Parce que parfois, elle est mal traduite quand elle est traduite par vous.
Jamais. Vous ne pouvez pas dire ça jamais.
Si,
Emmanuel Bompard, je vais vous poser une dernière question. À propos de Jean-Luc Mélenchon, parce que j'ai lu La Meute.
Ah.
Oui. Bah, vous l'avez lu ou pas, le livre La Meute?
Je l'ai lu.
Et alors? Ça n'intéressera personne, avez-vous dit,
lorsque
le livre est sorti, vous avez dit ça n'intéressera personne. Or, il connaît un immense succès. Bon,
Moi, je suis député, vous savez, je suis pas critique de fiction ou critique d'art.
D'accord.
Donc, je suis pas là pour commenter les fictions. Mais je l'ai lu et puis j'ai remarqué. Non, pas du tout. J'ai vu beaucoup d'informations qui sont des informations totalement mensongères. Et d'ailleurs, j'ai fait remarquer à plusieurs reprises que vous êtes journaliste, monsieur Bourdin, vous le savez, vous essayez de faire votre travail correctement. Il y a un principe au journalisme. Il y a un principe contradictoire, de respect du contradictoire. Quand vous attribuez des propos ou des scènes à telle ou telle personne.
Vous avez refusé de répondre aux auteurs. C'est vrai ou pas?
Non, c'est totalement faux. J'ai eu 2 heures d'entretien avec les auteurs. Et dans lequel d'ailleurs on m'a pas du tout interrogé sur les scènes à propos de moi ou à propos de déclarations à moi. Donc, d'un point de vue déontologique, ça me pose quand même une difficulté. Mais je vais vous dire, monsieur Bourdin, depuis que ce livre est sorti, on a gagné entre 2 et 3 points dans les sondages. Donc moi je suis plutôt content. Vivement la Meute 2, la Meute 3, s'il peut y avoir d'autres ouvrages comme
comprendre.
Ça, on pourra
j'ai une dernière question
changer ce pays, parce que c'est quand même ça l'important.
J'aimerais comprendre, parce que je connais Jean-Luc Mélenchon, non pas personnellement, mais je l'ai interviewé très souvent, une interview d'ailleurs que j'ai adoré, lui aussi, mais même s'il ne veut plus venir, mais on se retrouvera. Ah, j'ai connu Jean-Luc Mélenchon.
Pas la pensée des gens à leur place.
On se retrouvera. Dites-moi, Jean-Luc Mélenchon, je l'ai connu, ardent défenseur de la laïcité.
Oui.
Pourfondeur du voile, anticommunautariste acharné, et le voilà complètement transformé aujourd'hui. Mais pourquoi?
Transformé en quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Transformé.
C'est-à-dire?
Beaucoup moins défenseur de la laïcité, plus du tout pourfondeur du voile.
C'est totalement faux ce que vous êtes en train de dire. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise.
Et communautariste aujourd'hui.
Mais il n'est pas
communautaire. Ce qu'il n'était pas.
Alors, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise défendent la laïcité mieux que quiconque dans ce pays. Par contre, effectivement, la France insoumise refuse le dévoiement de la laïcité, auquel on observe, y compris dans le discours d'un certain nombre de responsables politiques, pour stigmatiser, s'en prendre à une religion en particulier, et notamment aux personnes qui pratiquent cette religion. Et malheureusement, dans ce pays, depuis des mois et des mois, on dévoie le principe de laïcité pour stigmatiser les Français de confession musulmane. Pour le reste, la France insoumise, elle est pour l'application pleine et entière de la loi de 1905 sur la laïcité, y compris, c'est la seule formation politique qui propose que cette loi s'applique sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, peut-être que ça vous a échappé. Mmh. Vous savez qu'il y a des départements en France où on n'applique pas la loi de 1905. Mmh. Donc c'est la France insoumise qui défend l'application de la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire national. Quant à l'accusation de communautarisme, monsieur Bourdin, elle s'appuie sur quoi précisément? Non, parce que je sais pas, c'est une accusation grave.
Vous savez, j'ai un vieux principe, Manuel Bompard, c'est de ne jamais répondre à une question que me pose mon invité. Parce que c'est pas le jeu. Mais monsieur Bourdin, je suis pas là pour entrer en débat avec
Bourdin,
vous.
Je ne vous demande pas.
Je ne vous demande pas. Je vous pose simplement la question.
Vous lancez une accusation de communautarisme. Je vous demande juste sur la base de quoi vous lancez cette accusation.
Mais je ne lance aucune accusation, je vous ai posé une question.
Bah, si, là, vous venez de dire que Jean-Luc Mélenchon était devenu communautariste. Donc je vous demande sur la base de quel élément.
Je vous pose la question.
Donc d'accord.
Pourquoi est-il devenu anticommunitariste?
Sur la base de quel élément, monsieur Bourdin? Ça, c'est si demain je viens sur un plateau de télévision et je dis de vous que vous êtes devenu telle ou telle chose, peut-être que je vais avoir besoin d'étayer mon accusation. Vous ne l'étayez pas.
Et ça ne
vous
pose pas de problème. Accusation,
donc
c'est
la France
une question.
Insoumise n'est pas communautariste. Bon, la France Insoumise,
vous voyez,
elle considère...
Vous répondez.
Ah oui, mais je réponds, mais
vous répondez en disant la France insoumise n'est pas anticommunautariste.
Je réponds, mais je remarque par contre que vous n'étayez pas votre accusation.
Mais je vous pose une question.
Non, non, vous avez formé une accusation de communautarisme, monsieur Bourdin.
On va pas débattre là-dessus.
On va pas débattre, monsieur Bourdin. Tous les gens qui nous ont écoutés ont vu que vous venez, vous qualifiez la France insoumise de telle ou telle chose et que vous n'avez pas un seul argument pour défendre cette accusation.
Mais je ne qualifie pas, je vous ai posé une question.
Il n'y a pas de problème, monsieur Bourdin. Pour le reste, la France insoumise, elle considère l'ensemble des Françaises et des Français, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, à égalité. Elle l'a toujours fait. Et les accusations au communautarisme que certains essayent de formuler.
Mais ça vous touche.
Vous savez d'où elles viennent? Elles viennent de gens qui, en fait, ne supportent pas quelque chose. C'est que la France insoumise a permis de ramener dans le vote, dans l'élection, des centaines de milliers de personnes.
L'invité politique sur Sud Radio de 8h30 à 9h, toute la semaine. Tout de suite, place à Sud Radio Média. Gilles Gansman, Valérie Expert et leur autre invité qui parle aussi beaucoup de politique.
Sud Radio Média. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Emmanuel Kessler, PDG de la chaîne LCP Assemblée Nationale et non pas Public Sénat. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu, parce que Gilles a posé la question hors antenne, comment vous vous répartissez les programmes et comment ça se répartit sur l'antenne. LCP qui donc remplace C8 sur le canal 8. Peut-être un mot sur ce que dit cet auditeur qui ne sait pas ce qu'il y a comme programme exactement. Alors votre attaché de presse qui est là nous a dit
directrice
en fait... directrice de la communication nous explique qu'en fait tous les programmes sont disponibles en ligne.
Alors ils sont évidemment sur le site, ils sont sur les applis de programmes télévisés, puisqu'on les envoie comme toutes les chaînes 3 semaines à l'avance. Sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de mise en avant de nos programmes. Après, ce qui peut arriver, alors d'abord il y a deux choses. D'abord dans les quotidiens, vous savez qu'ils ont réduit énormément la part de présentation des programmes justement parce que les gens regardent sur les réseaux sociaux sur les applis. Et donc, souvent, ils mettent les programmes des 6 ou 7 premières chaînes, et là, ils vont même pas tout à fait jusqu'à la 8. Donc, parfois, effectivement, c'est plus sommaire, plus succinct dans les quotidiens. Et le deuxième, mais dans les hebdo télé, il y a tout. Et le deuxième élément, c'est que, et ce qui peut parfois dérouter cet auditeur de Sud Radio, c'est que c'est vrai que, comme on a de l'actualité parlementaire et qu'il y a parfois des auditions qui arrivent au dernier moment, qu'on va diffuser en direct, on nous oblige.
C'est votre
parce
breaking
que là,
news.
C'est notre breaking news. On n'est pas une chaîne d'info continue, mais vous avez raison, Gilles, on s'autorise, mais on doit pratiquer le breaking news parlementaire. Quand François Bayrou est auditionné dans la commission d'enquête sur les événements de Betarame, bien évidemment, on va le faire en direct. Ça dure le temps que ça dure. Nos amis de Public Sénat, d'ailleurs, nous ont cédé l'antenne à ce moment-là. Ça a duré 6 heures.
Ça finit jusqu'à 22 heures.
Et ça a bouleversé nos programmes. Le documentaire de 20h30 n'a pas pu être diffusé. Donc ça peut être un peu déroutant. Mais dans la plupart des cas, nos programmes sont bien annoncés.
Est-ce que c'est un joli coup, ça, sur les commissions d'enquête parlementaire? Oui. que vous n'avez pas d'audience au quotidien, Médiamétrie, mais est-ce que vous remarquez que ça booste vos audiences?
Considérablement, ouais. Considérablement. D'abord, on a les audiences un mois après. Ouais. Donc, on sait que sur la commission Betaram, par exemple, on a fait 4 fois notre part d'audience moyenne à la télé. On a eu une moyenne de 200 000 téléspectateurs sur l'ensemble de la durée du programme, ce qui est quand même remarquable. Je vous rappelle aussi que la motion de censure contre Michel Barnier, on est allé jusqu'à 1 million de téléspectateurs. Donc, il y a un réflexe LCP qui s'installe quand il y a une forte actualité parlementaire. Puis, pour prendre un exemple tout récent, et même quand on n'a pas de mesure d'audience, on a un bon indicateur qui permet un peu au feeling de savoir ce qui se passe, ce sont les réseaux sociaux. Et hier, nous avons
la commission TikTok.
Voilà, sur la commission TikTok, on a été très présents sur les réseaux. On a fait, alors qu'on est, on a une chaîne Twitch, mais c'est vrai qu'on a une petite émission, mais, et là, on a cartonné sur Twitch. On a eu, pour la première fois, et parce que c'est le début, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais plus de 5000 participants Twitch qui ont interagi sur l'audition de cette commission. On en est à 60 000 vues sur YouTube. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt pour ce type de commission. Et là, on peut capter un public large.
Et oui, alors une commission très suivie, évidemment. Alors pour la première fois, je pense que vous avez des gens très jeunes qui vous suivent, parce que tous les YouTubeurs regardent.
C'est le but d'ailleurs d'aller sur les réseaux avec les formats, parce qu'évidemment, on fait des retransmissions commentées. On fait pas de la télé classique quand on est sur Twitch, avec les formats qui sont ceux que regardent les jeunes qui eux ne regardent plus la télé.
Parce que évidemment, vous avez reçu les héros entre guillemets de ces jeunes comme Adé Laurent, à qui on reproche de parler beaucoup de sexe sur TikTok et de faire du sexe, en tout cas de parler de sexe avec des jeunes filles.
C'est une commission d'enquête sur les effets psychologiques des réseaux, et ça recoupe d'ailleurs ce qu'a dit le président de la République.
Alors l'un d'eux était en Zoom, il s'appelle Alex Hitchon, et il a pas supporté la commission, en plein commission il est parti, on écoute.
Je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22h? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec deux amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. Oui, c'est le problème de TikTok.
À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président de la commission d'enquête. Excusez-moi, on va couper le son de monsieur Hitchon. Je vous disais...
Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée.
Je finis mon propos.
Ouais, il y a des us et coutumes qui visiblement ne lui sont pas familiers.
C'est deux mondes très différents. Alors pour ce qui est d'une commission, alors évidemment ça a généré beaucoup d'intérêt et comme je vous le disais beaucoup de visibilité à cette retransmission qu'on a pu faire sur l'ensemble de nos réseaux de cette commission en direct et sur une durée assez longue. Ce qui se passe après dans la commission et même la captation vidéo de la commission, ce n'est pas LCP. L'Assemblée nationale met à disposition ces signaux. Mais nous, ensuite, on les met en valeur. On va reprendre, évidemment, ce débat, notamment dans notre émission d'actualité « Ça vous regarde », qui est le moment magazine où, justement, on peut se créer cette interaction. Et peut-être qu'il faut faire revenir un de ces influenceurs face aux députés pour essayer d'aller au-delà de cette difficulté à communiquer aujourd'hui.
Et alors, moi, je vous promets de l'audience ce jeudi, parce que jeudi, ils vont auditionner les patrons français de TikTok dans la commission. Et là, je pense que ça va être intéressant de voir ce dialogue entre le patron de la commission, enfin les gens de la commission et le patron de TikTok.
Et vous voyez, c'est important pour la chaîne parlementaire de montrer ça parce que on dit qu'il y a une espèce de coupure entre les Français et la politique, que la politique c'est que des jeux de théâtre, de politique politicienne, de petites phrases, etc. Or là, on voit que l'Assemblée nationale s'intéresse quand même à un enjeu réel tous les Français sont préoccupés par cet effet des réseaux sociaux qui bouleversent totalement non seulement notre rapport à l'information, mais on voit que les codes sociaux sont bouleversés par ça, avec parfois des drames. Et donc cette commission d'enquête, c'est important. Les commissions d'enquête, c'est un truc qui marche le mieux parce que là, on voit que les députés se coltent à des sujets qui concernent les Français, et puis une dramatisation aussi qui fait que c'est de la télé en même temps.
Sud Radio Média de 10h à 10h45 avec Gilles Gansman, Valérie Expert et leurs invités. Toute la semaine, ils reviennent dès lundi. Allez, restez avec nous. Après les temps forts de la semaine, place au temps fort de ce samedi matin. On se retrouve dans un instant avec toute l'équipe du Grand Matin Week-end.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix, car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc.
Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio Narbonne.
104.7.
Sud Radio. Sud Radio, la radio du rugby, vous donne rendez-vous pour la 25e édition du South Beach Rugby 5 Marseille, l'événement incontournable de l'été. Rendez-vous du 13 au 15 juin sur la plage du Prado David à Marseille, assister au tournoi de rugby avec des équipes venues de toute l'Europe et participer à nos animations pour tous les âges. Ne manquez pas cet événement exceptionnel gratuit et venez vivre l'adrénaline du South Beach Rugby 5, plage du Prado David à Marseille du 13 au 15 juin avec Sud Radio, la radio du rugby. Toutes les infos sur sudradio.fr.
Les passagers destination hybride sont priés de se rendre dans leur concession Suzuki la plus proche pour profiter des 5 modèles et 3 technologies hybrides Suzuki à partir de 159€ par mois. Destination hybride, embarquement immédiat. Profitez des portes ouvertes ce week-end.
Prix pour Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000€. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2025. Si accord Kofika Bay. Détails sur suzuki.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Dans un instant, retour du Grand Matin Week-end Sud Radio.
Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Bétonne, ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne me fâche, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Après je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer pour ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème éthique. Hey, je ne me fâche, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bagne. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne me fâche pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. J'ai dépassé les limites aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en rebond. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer.
L'horoscope Sud Radio.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes le samedi 14 juin. Bélier, vous jouez avec les mots de façon remarquable. Plus diplomate et direct, vous faites mouche. Taureau, vous êtes complimenté et encouragé sur des projets que vous avez fait aboutir. Voilà un travail bien effectué. Gémeaux, les situations que vous vivez sont agréables. Profitez de la vie sans vous poser de faux problèmes. Vierge, vous serez tout à fait impitoyable envers les autres. La bonne humeur ne sera pas de la partie. Balance, vous savez parfaitement que l'union fait la force et vous avez le sens des associations avantageuses. Alors pactisez. Scorpion, vous serez plus objectif pour juger de la situation. Votre raison froide vous porte chance. Sagittaire, la chance pure va vous permettre d'avancer vers vos objectifs. Ne tâtonnez pas, laissez parler votre spontanéité. Capricorne, vous avez envie de fuir des explications qui pourtant sont nécessaires, mais le combat vous agace d'avance aujourd'hui. Verseau, votre route est maintenant plus lumineuse, mais la dispersion de vos énergies peut vous faire croire à un manque d'efficacité. Poisson, vous éprouvez un décalage entre votre image et ce que vous êtes fondamentalement. L'authenticité est la meilleure alternative.
Merci beaucoup, ma chère Bénédicte.
Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bon, qui a bien dormi? Qui a bien dormi alors qu'il faisait chaud? Une chaleur estivale en plein milieu plutôt du mois de juin. Effectivement, il a fait très chaud et à tel point d'ailleurs qu'il y a des orages qui ont éclaté dans la nuit. D'autres qui vont continuer à éclater. On y reviendra. Soyez prudents si vous êtes dans les zones en vigilance orange. On est ensemble jusqu'à 10h pour faire le point sur toute l'actualité de ce samedi matin. La guerre entre l'Iran et Israël. Jusqu'où ira-t-elle? Quels sont les dessous de l'incroyable opération du Mossad qui a permis à Israël de décapiter toute une partie de l'armée iranienne? On y reviendra. Les missiles iraniens qui sont abattus par centaines sur Israël pendant la nuit. Témoignage en direct d'un kibboutz qui a été mortellement frappé lors du 7 octobre par le Hamas. Comment les habitants se sont réfugiés? Quels souvenirs ça leur a rappelé? Jusqu'où ira cette escalade? C'est ce qu'on verra. On parlera aussi de la position de la France. Soutien à Israël contre le régime des Mollahs. Est-ce que ce soutien est crédible? On parlera aussi de la reconnaissance promise par la France de l'État de Palestine. Cette reconnaissance est repoussée. Ce sera pas le 18 juin finalement, ce sera plus tard. La réunion à l'ONU a été repoussée. Bref, voilà pour les actualités. Il y aura aussi pas mal de sport, ça on va y revenir en détail. Avec moi, toute l'équipe du Grand Matin Week-end. Anthony Urvois à la réalisation.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Nous sommes avec Tristan au 0826-300-300. Salut Tristan.
Bonjour à tous.
On y arrive presque. Dans deux semaines, on arrivera à peu près à l'entendre quand il se rapprochera. Il est encore un peu timide. Il faut parler bien près du micro, Tristan. Ça va venir. Théo Ampillac, il aurait mieux fait d'être timide ce matin. Bonjour.
Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous. Ça, alors moi, j'ai mal dormi, mais pas quand des orages. Hein.
C'est ça. Ça, c'est la voix de quelqu'un qui